Mémoire vive est préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, c'est un livre qui est au sommaire de l'émission, Face à la persécution, 991 juifs dans la guerre. C'est le titre de cet ouvrage qui paraît aux éditions Odile Jacob et qui propose une nouvelle perspective pour envisager l'histoire de la Shoah du côté des victimes. Un livre qui détaille chaque temps de la persécution nazie et vichyste, se déclarer, partir, rester, être dépossédé, raflé, exterminé et pour certains revenir. Autant de moments qui nous plongent dans le quotidien des membres de la communauté juive de Lens entre 1940 et 1945 pour tenter de démêler, au-delà de tout jugement, ce qui a déterminé les choix de ces familles dans des circonstances extrêmes. Avec nous pour en parler, les deux auteurs du livre, Claire Zalk et Nicolas Mario. Bonjour.
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 Nicolas Mario, vous êtes chercheur au CNRS, politiste, spécialisé en socio-histoire. Vous avez travaillé sur les violences de guerre et les voyages présidentiels. Claire Zalk, vous êtes chercheuse au CNRS, historienne et spécialiste de l'histoire de l'immigration et des entrepreneurs étrangers. Alors pour commencer, une question un peu à la marge de votre travail. Quelles étaient jusqu'à ce livre vos relations à tous les deux avec la question de la Shoah et son historiographie? Parce que finalement, on est assez loin de vos sujets de recherche initiaux. Qui veut répondre en premier?
Bon, je vais peut-être commencer. Loin, oui et non. J'ai travaillé beaucoup sur les questions d'obéissance et de violence. J'ai écrit un article il y a maintenant pas mal d'années, 7, en 2003, dans Genèse, qui s'appelait « Faut-il être motivé pour tuer ?» autour de la controverse à la suite du livre de Goldhagen, et qui reprenait également des questions propres au champ de la Première Guerre mondiale et des livres qui étaient issus de ces questions. Donc de fait, on pourrait dire qu'avant d'avoir un rapport aux archives de la Shoah, j'ai plutôt eu d'abord un rapport au débat, à l'historiographie de cette question.
Moi, c'est un peu différent. En effet, je travaillais sur les entrepreneurs étrangers. Et ma thèse portait sur l'entre-deux-guerres et j'avais résolument décidé de m'arrêter en 1939 pour tout un ensemble de raisons. Et en même temps, tout me portait à aborder la question de l'aryanisation, notamment les sources, puisque dans le registre du commerce, qui était la source principale de mon travail de thèse, figuraient les mentions d'aryanisation et de spoliation. Et j'essayais d'éviter en fait la question dans tout mon travail en me disant « je vais passer après-guerre, je vais faire le grand saut ». Et en même temps, voilà, mais je pense que beaucoup de choses m'y ramenaient.
Alors ce livre donc se penche sur le parcours de guerre des 991 juifs de Lens, donc une ville du nord de la France située dans le Pas-de-Calais, en plein pays minier entre Béthune, Lille et Douai. Donc une petite ville de 33 000 habitants qui n'a marqué ni l'histoire de la guerre ni celle de la persécution des juifs en France. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir finalement cette ville en particulier?
Bon, là c'est vraiment les hasards de la recherche. En fait, justement, moi j'étais en train de finir ma thèse quand on m'a... Un ami m'a appelé parce que sa grand-tante venait de décéder et il y avait toutes les archives de sa petite entreprise à récupérer et je les ai fait verser aux archives nationales. Et puis on a commencé une recherche autour de ces archives d'entreprise et la question s'est tout de suite posée, que s'est-il passé pendant la guerre? Et du coup on a commencé alors d'abord collectivement dans une recherche qui associait des étudiants, des jeunes chercheurs, espèce de grand projet collectif. Et puis on a aussi trouvé dans ce cadre des archives assez exceptionnelles aux archives départementales du Pas-de-Calais, qui sont les lettres de déclaration en 1940, lorsqu'il faut se déclarer comme juif, matériel qui n'a jamais été vu ou en tout cas dépouillé dans un autre département. Et puis de fil en aiguille, on s'est mis à travailler sur cette communauté juive dont personne n'avait jamais entendu parler. Aujourd'hui encore, on nous dit « Ah bon, il y avait des juifs à Lens ?» Oui, il y avait des juifs à Lens.
Vous, Nicolas Mario, comment vous êtes venu aussi, finalement, sur ce travail qu'avait entamé Claire Zalk?
Par le même biais, en l'accompagnant simplement et en découvrant, à ma grande surprise, je dois le dire, juste après l'ouverture des archives généralisées sans dérogation sur toute la Seconde Guerre mondiale en 2002, on a découvert qu'il y avait un fonds extrêmement important, extrêmement conséquent, apparemment peu trié, avec peu de choses détruites dans les archives du Pas-de-Calais, qui racontait effectivement ce fond de lettres de déclaration en décembre 1940, mais aussi l'ensemble des recensements en décembre 40 et ultérieurs jusqu'en 42, et jusqu'aux listes des personnes raflées en septembre 1942 à Lens, donc un fond extrêmement conséquent où on pouvait suivre dans la durée, toute l'histoire de la persécution de cette communauté lensoise.
Alors pour en venir finalement à votre problématique, vous dites dans votre avant-propos vouloir raconter l'histoire du point de vue des victimes. Et vous retracez donc le parcours de ces 991 individus qui, au lendemain de la guerre, ne sont plus que 528 à être encore en vie, puisque donc 467 d'entre eux ont été déportés, seuls 18 ont survécu. Vous faites référence dans cet avant-propos au livre de Daniel Mendelssohn, Les Disparus, donc qui tente lui de retrouver les traces et le parcours des membres de sa famille, disparus, mais à travers un travail donc littéraire. Alors vous auriez pu raconter successivement les itinéraires de chacune de ces familles ou de ces individus, et vous avez choisi d'éclater les parcours et de retracer étape par étape finalement dans leur collectivité, leur globalité, les liens et l'histoire de ce groupe social avec ses interconnaissances, ses itinéraires. Et cette idée d'une histoire des individus à travers un groupe social peut sembler contradictoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi finalement cette vision de groupe ?
Oui, je vais peut-être commencer. C'est très important parce que ce qu'on voulait faire, c'était justement... Mendelssohn, il suit l'histoire de sa famille. D'un point de vue littéraire, effectivement, nous, il y a, on va dire, peu de littérature, beaucoup de tableaux. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ça ? Ce qui est important, c'est, et nouveau dans le livre, je crois, c'est pas tellement de traiter des victimes. Ça a été déjà évidemment beaucoup fait. Ce qu'on tient là, ce qui nous semblait neuf, c'est de traiter 991 personnes en tant que groupe social constitué. Évidemment, pas pris au hasard. Pourquoi c'est important de retracer ces trajectoires ? Parce que ça permet d'éviter, autant que faire se peut, ce qu'on voulait faire nous, c'est d'éviter de porter un jugement moral sur les choix et les décisions qui ont été celles de ces familles entre 40 et 45. Ce qu'on a généralement tendance à faire quand on parle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de façon générale et particulièrement de l'histoire de la Shoah, c'est porter un jugement, c'est-à-dire de dire est-ce que les choix ont été bons ou mauvais ? Est-ce que ces gens ont été lucides ou au contraire naïfs en faisant trop confiance à l'administration ? Bref, on voit toute la thématique qu'il y a là derrière. Ce qu'on essayait de faire, nous, c'est de dire on ne porte pas de jugement parce que les gens, contrairement à nous, ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Et c'est évidemment décisif. Donc du coup, on essaye de retracer systématiquement les conditions de possibilité. Qu'est-ce qui était pensable pour eux à tel moment ? Qu'est-ce qui était possible ? Voilà. Et rendre compte de ces conditions de possibilité et de ce qui était pensable, c'est retracer leurs conditions de vie, ce qui était à leur disposition, le nombre d'enfants dans la famille, les revenus de cette famille, le statut professionnel, etc., etc. Autant de variables qui permettent de mieux comprendre ce qu'ils ont pu faire, finalement, dans la situation dans laquelle ils étaient plongés.
Oui, il y a aussi une question d'échelle, en fait. Je pense qu'on est... tous les deux, à un moment, notre génération d'historiens, à un moment d'historiographie où la grande histoire totale et quantitative des années 60-70 a été battue en brèche par la micro-histoire, qui est devenue du coup une analyse souvent de l'individu. Hein, on pense à Alain Corbin, à Pinago, à ce genre de choses. Et depuis, une dizaine d'années ou un peu moins, on passe à ce qu'on appelle, ce que Paul-André Rosenthal a appelé une analyse mésoscopique, c'est-à-dire qu'on se met à une échelle médiante qui à la fois permet de cerner l'ensemble des individualités. Et je pense que dans ce livre, pour le grand public, il y a plein d'histoires, plein d'histoires de vie, de famille, de gens auxquels on s'attache énormément. Et en même temps, de considérer ces individus comme faisant partie d'un groupe. Et pour cela, c'est vrai que Lens, avec cette communauté, a une qui a quand même une taille réduite, un millier d'individus, 991 ou un peu plus, c'était une taille parfaite d'un point de vue heuristique pour mener notre démarche à cette échelle médiane.
Et alors effectivement, vous l'avez dit tous les deux, c'est la question du choix qui revient beaucoup dans votre travail. Un thème est, comme vous l'avez dit, vraiment débattu dans l'historiographie de la Shoah. Et effectivement, vous essayez d'éviter tout jugement moral et vous proposez une autre approche, donc centrée sur les circonstances. Et finalement, vous arrivez à dégager, à battre en brèche certains clichés, à dégager certaines variables qui permettent d'expliquer certains choix en fonction des circonstances, que ce soit le choix de se déclarer ou le choix de partir, de fuir, de se cacher.
Oui, par exemple, un des résultats, je pense, importants de l'étude et qui est à la fois paradoxal et qui pose question même quant à notre humanité, en quelque sorte, c'est le fait que plus les familles sont élargies à Lens, c'est-à-dire plus il y a de frères et sœurs, etc., tantes, oncles présents sur place, plus c'est difficile de partir. Dans le sens où plus on est un groupe homogène, une famille qui se soutient, qui s'entraide, etc., plus c'est difficile de se déplacer parce qu'on est d'autant plus visible qu'on est nombreux, qu'il y a beaucoup d'enfants à emmener, etc., etc. Donc c'est un paradoxe que ceux qui sont en quelque sorte les plus isolés ou les moins nombreux localement, mais qui par exemple vont avoir des appuis ailleurs en France, des amis, des membres de leur famille installés à Lyon, en zone sud, que sais-je, voire en Suisse ou ailleurs, vont avoir beaucoup plus de possibilités de s'en aller et surtout de se fondre dans la population, dans l'endroit où ils arrivent. Ce qui est évidemment plus difficile quand on a beaucoup, quand il faut se déplacer en groupe et qu'on ne connaît personne là où on arrive, hein, où on est de fait un étranger.
Là, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que ce résultat-là, il ne va pas surprendre, j'imagine, les gens qui écoutent l'émission. Mais si on avait demandé au départ, alors qu'est-ce qui fait qu'on part ou qu'on reste ? On le fait tout le temps, nous, comme test. Personne ne donne cette... on pense à l'argent, à avoir des moyens, pas de moyens, avoir une voiture, pas de voiture, avoir des liens autre part. Et en fait, cette question, par exemple, alors c'est juste un des résultats, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, en effet, le nombre d'enfants, hein, qui est totalement déterminant, ou alors le nombre de liens hors son ménage, c'est des résultats. Alors c'est ça aussi le paradoxe de la quantification. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tableaux, mais en même temps, je pense que le livre se lit bien. C'est de montrer quand même un certain nombre de résultats qui, a posteriori, n'étonnent peut-être pas, mais qui, me semble-t-il, font avancer la recherche.
Alors finalement, à la fin de votre avant-propos, vous dites que vos sources vous ont permis de comprendre ce que fut, dans un lieu et un temps donné, être juif. Donc vous décrivez les différentes vagues d'immigration, ses conditions, ses motifs, son installation en France dans les années 20. Est-ce que vous pouvez nous décrire, essayer de nous faire un tableau de cette installation des juifs d'Europe de l'Est dans le Massin Minier et notamment ceux de Lens ? Claire Zalk ?
Oui, alors là, il y a deux questions en une. Hein, parce que vous avez dit en effet que la question de la violence et du choix était centrale. C'est vrai. La question de la catégorisation et l'identification, elle est centrale aussi dans ce travail. Et on voulait commencer de manière un petit peu prétentieuse en se disant ce livre, c'est une réponse à la grande question « qu'est-ce qu'être juif ?» En se disant, on ne peut pas donner une réponse universelle à cette question, mais une réponse pragmatique dans un temps et un lieu donné. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup et on, sur toute la question justement comment on a identifié les juifs, qui se déclarent, qu'est-ce qu'un juif en 1940, c'est pas du tout une question évidente qui a posé beaucoup de problèmes et à l'administration, ça on le sait un petit peu, mais aux gens aussi à qui on a demandé de se déclarer. Donc ça c'est une première chose. Sur l'arrivée, c'est une arrivée qui est concomitante à l'arrivée des mineurs polonais dits catholiques dans le bassin minier, hein, arrivée absolument massive, recrutée par la Société Générale d'Immigration et par les compagnies minières. Et dans le sillage de ces migrations vient s'installer une petite communauté juive à Lens dans les années 20 et 30. Mais il ne faut pas croire que les gens, comme on le dit sur place, on dit les Polonais ont emmené les Juifs dans leurs valises. Ce n'est pas le cas. En fait, dès qu'on regarde les itinéraires, ils ne viennent pas des mêmes régions et ils ne passent pas par les mêmes endroits. La plupart de ces Juifs lensois sont d'abord passés soit dans la Sarre, soit dans d'autres régions françaises, puis par Paris, et en fait arrivent en masse à Lens durant la crise économique, au moment où les portes se ferment et où l'emploi est difficile à cause de la crise des années 30. Et du coup, là, il y a un marché à prendre, puisqu'ils arrivent à vendre aux Polonais en parlant polonais et en connaissant les préférences vestimentaires et plus généralement de consommation des Polonais. Donc c'est une sorte de marché de niche, pour reprendre un terme d'histoire économique.
Oui, et donc vous faites un portrait de cette communauté, vous en profitez pour introduire de la nuance, battre en brèche quelques clichés, pas de ghetto, pas de juifs polonais mineurs, pas de commerçants florissants.
Des juifs polonais mineurs, justement. Voilà. Si, des juifs polonais mineurs. Alors que les mineurs polonais là-bas nous disaient « les juifs, ils ne descendent pas, eux ». Et en fait, bah, nous, on trouve qu'il y a quand même des juifs qui sont dans les mines, contrairement à justement l'idée que les juifs seraient tous commerçants, etc. Alors, ils sont minoritaires, mais il y en a quand même dans les mines.
Et puis, il y a la question aussi de la communauté française, c'est-à-dire qu'il y a des juifs français plutôt à Lille, et il n'y a pas beaucoup, voire pas de juifs français à Lens.
C'est une communauté créée quasiment ex nihilo dans les années 20. Hein. Pour ça, elle ressemble à d'autres petites villes de province, communauté immigrée dans sa grande majorité, et en effet, qui vraiment est liée à cette vague d'immigration.
Alors vous avez intitulé votre premier chapitre « Se déclarer », donc il évoque la question du recensement des Juifs, premier pas vers la mise en place d'une politique antisémite. Donc il s'agit de comprendre ce que recoupe pour l'administration française justement le fait d'être juif et la question de définir quelqu'un par son appartenance religieuse dans un pays laïque où jusque-là on définissait plutôt les gens par leur nationalité. Donc vous montrez qu'il n'y a pas de continuité avec la Troisième République, contrairement à ce qu'on a pu penser, et que Vichy innove dans cette manière de catégoriser les gens. Et puis vous précisez que les fichiers d'étrangers de demande de naturalisation n'ont pas été utilisés d'ailleurs dans ces processus d'identification des Juifs. Alors comment expliquez-vous le fait que dans les têtes, à l'époque, on confond d'ailleurs souvent le fait d'être étranger et d'être juif, et que la définition même de la judéité est mouvante ?
la question des nationalités, enfin des rapports entre nationalité, religion, déclaration de soi est extrêmement complexe. Et elle tient par exemple au fait effectivement que les gens en Pologne et même en URSS souvent peuvent se déclarer de nationalité juive, ce qui est très paradoxal pour un Français républicain avec beaucoup de guillemets, même à l'époque. Mais c'est pourtant ce qu'on voit assez fréquemment. Et même souvent, les gens essaient d'en jouer. Par exemple, on cite une déclaration dans laquelle la personne se dit, lui, le père de famille et sa femme, de nationalité juive, pour mieux essayer de protéger ses enfants, hein, qui sont devenus français par déclaration, en disant « ma fille est de nationalité française ». Il y a tout un jeu assez complexe sur ces questions, effectivement, de religion, de nationalité, de déclaration de soi.
Oui, parce que vous dites appartenance religieuse, non, en fait, justement, on ne sait pas comment définir les juifs. Et alors, il y a une définition raciale et une définition religieuse, selon qu'on est en zone sud, ou enfin gouverné par Vichy, ou en zone occupée, et là encore en zone interdite, c'est une autre définition puisqu'elle vient du commandement de Bruxelles. Et justement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas, il y a une catégorisation extrêmement floue finalement. Alors trois grands-parents juifs, ok, mais ça veut dire quoi qu'ils sont juifs, les grands-parents? C'est juste reporter le problème à un échelon, à une ascendance différente. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens réagissent à ça. Et en fait, ils réagissent d'abord de manière extrêmement individuelle et souvent avec leur passé migratoire. Donc pour les Russes, en effet, nationalité juive, puisqu'à l'époque, la nationalité juive est sur le passeport. Pour d'autres, grande perplexité en disant « je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je me déclare ? Mon père était juif, moi je suis catholique, que faut-il faire ?» Et les gens, comme ça, se livrent à l'administration avec leurs doutes. Et ça, c'est vraiment un matériel qui est formidable sur justement... la violence d'une catégorisation imposée arbitrairement à ce moment-là, et en même temps le flou et l'arbitraire qui ressort de cette catégorisation.
Oui, effectivement. Et puis ce qui est marquant, c'est que finalement, ce flou, il est bien sûr intégré quand on essaie de se déclarer soi-même, de s'identifier, mais aussi dans l'administration. C'est-à-dire que même l'administration ne sait pas exactement finalement ce que recouvre cette catégorie.
Ils sont complètement désemparés. C'est-à-dire qu'au début, on leur dit « bon, donnez-nous une liste de juifs ». Alors les petits maires, alors bon, il y a le maire de Lens qui fait un premier recensement, mais il ne trouve pas du tout assez de juifs. Et on ne sait même pas comment il le fait. En effet, il ne prend pas les fichiers des étrangers. En même temps, ça doit être par de la notoriété publique, mais en même temps, il oublie, par exemple, les membres officiels de la communauté. C'est-à-dire, le président de l'association cultuelle, il n'est pas dans le premier recensement. Donc, ils n'ont même pas les réflexes de base qu'on pourrait même mettre en œuvre aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres qui disent « bon, ben, je ne sais pas quoi faire, je vous envoie la liste des étrangers ». Donc, on voit que vraiment, ça met tout le monde dans un état de perplexité. Je ne veux pas faire de comparaison trop forte avec l'actualité, mais je me demandais quand même, les Roms aujourd'hui, c'est qui ? Là aussi, est-ce que vraiment il y a une définition possible de ce groupe ? Et je pense que, enfin, j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, combien le flou dans cette catégorisation crée de l'arbitraire aussi.
Et c'est pour ça qu'en fait, ils finissent par s'en remettre aux gens eux-mêmes, en disant, ben, manifestement, qu'est-ce qu'on a là ? On ne sait pas trop. Un premier recensement, hein, le 11 décembre 1940, ils ont un truc et manifestement, ça ne les satisfait pas. C'est tout ce qu'on peut considérer. On ne sait pas quelles conséquences ils en tirent. Il n'y a pas de lettres ou de notes commentant ce premier recensement. Mais manifestement, l'administration préfectorale à la sous-préfecture de Béthune n'est pas satisfaite. Et donc là, ils font appel, effectivement, ils disent aux gens « Bon, tous les Juifs, vous êtes obligés de venir vous déclarer. Vous le faites, etc. etc. » Et ils s'en remettent complètement à la déclaration, en ajoutant simplement encore quelques identifications à distance, à droite, à gauche. Et effectivement, on a pu le montrer sans se reposer non plus sur les divers papiers, demandes de naturalisation, qui indiquent souvent, par exemple, un état civil géré par la communauté juive en Pologne, où il aurait été en quelque sorte relativement aisé d'identifier la judéité des personnes.
Alors on l'a dit, donc il y a toute cette communauté qui se déclare, qui donc suit le processus donc de la discrimination et de l'extermination nazie. Donc une partie de cette communauté va aller donc à Auschwitz. Et vous racontez aussi, et ça c'est très intéressant dans votre livre, la question du retour de cette communauté à Lens, et donc la question de comment on fait pour récupérer ses biens, reprendre sa place, essayer de reprendre une place. Est-ce qu'on choisit de revenir ou de quitter finalement Lens? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces enjeux-là?
Les retours, c'est quelque chose qui n'a pas été encore beaucoup fait. Et nous, ça a été une grande découverte dans les archives, des dossiers de naturalisation pour l'essentiel, de voir comment les retours sont à la fois difficiles et en même temps l'attachement incroyable des Juifs lensois à Lens. La moitié reviennent à Lens. Et quand on sait que c'est une des rafles les plus dures de France, hein, 50% de la communauté est morte, on dit 25% la plupart du temps pour la France, donc c'est quand même une rafle extrêmement violente avec un zèle administratif terrible, et les gens reviennent sur place. Et d'ailleurs, l'attachement est incroyable et perdure aujourd'hui. On a été présenté le livre à Lens dimanche dernier, et c'était extraordinaire comment les gens voulaient nous transmettre leur attachement local. Et pourtant, non seulement ils ont été persécutés très très violemment sur place, mais après, le retour s'effectue en effet dans des conditions extrêmement difficiles, et notamment ce qui est le plus marquant, c'est la négation et de la persécution, et en même temps de continuer que toutes les mesures prises, un grand nombre de mesures prises pendant la guerre, continuent d'être en vigueur. Notamment, les gens qui ont perdu leur maison n'arrivent pas à récupérer leur maison. Les gens qui ont perdu leur bien n'arrivent pas à récupérer leur bien. Et il y a vraiment une hostilité telle que le commissaire de police locale écrit une lettre au préfet en disant « Ils reviennent et ça se passe très très mal, que faire ?»
Oui, vous décrivez l'exemple de cette personne qui est obligée de racheter son bien qui a été aryanisé, ou cette autre qui les reprend de force. Donc il y a en plus des attitudes très diverses par rapport à ce phénomène.
Oui, et effectivement, dans ce processus-là, les gens, bon, ça c'est pas une énorme nouveauté, parfois vont essayer de régler sans passer par le conflit juridique, et vont effectivement racheter à un prix souvent beaucoup plus élevé que la personne ne l'avait acheté précédemment, leur bien, le bien qui était celui de leur famille, pour pouvoir le récupérer beaucoup plus rapidement. D'autres vont effectivement au procès et s'engagent dans des actions en justice effectivement longues et complexes. Mais ce qui est peut-être d'une certaine façon plus étonnant encore, puisque là on pourrait dire, bon, parfois le conflit juridique a certaines bases, bon, on pourrait encore discuter. Ce qui est le plus étonnant peut-être, c'est dans le cadre des dossiers de naturalisation, le fait que la préfecture et les commissaires de police qui font des enquêtes locales vont souvent utiliser des peines prononcées sous Vichy. Hein, par exemple, des peines parfois dérisoires, hein, vol de cartes d'alimentation, des choses comme ça, qui ont été donc prononcées sous Vichy à l'encontre des demandeurs de la nationalité. Alors qu'évidemment, toutes ces peines prononcées pour des raisons raciales à l'époque sont en théorie complètement annulées. Et pourtant, elles restent présentes systématiquement dans toutes les enquêtes que mènent les commissaires de police locaux pour savoir si on peut donner ou pas la nationalité française à monsieur truc ou monsieur machin. À chaque fois, hein, ils continuent de relever les infractions qui ont été censément commises, qui ont été commises éventuellement du point de vue des autorités de Vichy pendant la guerre en zone sud, par des gens qui étaient des réfugiés, parfois dans des situations absolument extrêmes de paupérisation, de difficultés de vie, hein, et ce sont pourtant ces infractions-là qui sont relevées à leur encontre encore après 1945.
Et on leur refuse la naturalisation. C'est ça qui est aussi assez incroyable, hein, pour nous. Hein, on leur refuse avant-guerre, mais il y en a qui on leur refuse deux fois, trois fois après la guerre, alors qu'ils sont sur place, insérés localement. Notamment un en disant « Oui, mais il a été déporté, il est revenu. Que s'est-il passé ?» Donc, doute, on lui refuse la naturalisation. Donc, il y a vraiment une attitude de l'administration française qui est assez incroyable sur place. Et l'autre chose, je trouve, qui a été pour nous, en tout cas, une sorte de révélation, d'une certaine manière, c'est la manière dont on dit souvent « les gens ne parlaient pas ». Hein, et en fait, on se rend compte qu'ils parlaient, mais qu'ils n'étaient pas entendus.
Alors, pour découvrir plus de choses sur toutes ces 991 personnes donc, qui ont habité Lens pendant la guerre, donc face à la persécution, 991 juifs dans la guerre, Nicolas Mario et Claire Zalk, merci encore. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org et le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche.